Y'a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, Urgence. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Ce mois-ci, nous abordons la question du mariage pour tous. Le gouvernement va soumettre au Parlement un projet de loi visant à permettre à des couples de même sexe de se marier et d'adopter des enfants ou ceux de leurs conjoints. Comme on pouvait s'y attendre, le mariage pour tous fait débat. Le week-end dernier, les anti-mariage pour tous sont descendus dans la rue. Des débordements inadmissibles ont marqué la manifestation de dimanche, où des féministes et des journalistes ont été violemment pris à partie. La Ligue des droits de l'homme a toujours milité pour l'égalité des droits, et notamment dans le domaine de la famille et du mariage. Nous sommes allés voir, dans le cadre de notre micro-trottoir désormais traditionnel, ce qu'en pensent nos concitoyens. Nos invités sont Jean-Michel Punière, docteur en psychologie et coordonnateur de l'association Contact Midi-Pyrénées, et Barthélémy Alata, président de cette même association. À la fin de l'émission, pour écouter le traditionnel billet d'humeur de Dominique Ladé, la Ligue des droits de l'homme s'est également donné la parole aux citoyens. Et nous allons commencer, comme je vous l'ai annoncé, par notre micro-trottoir réalisé sur le marché de Villefranche. Après la musique, la parole est aux citoyens.
Pour la Bastille,
l'apéro pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles,
des filles pour les garçons.
Y'a des filles pour les filles,
et des garçons pour les garçons.
Y'a le foin pour les aiguilles,
le blé pour le charançon,
l'hameçon pour les anguilles,
l'hameçeur pour l'unisson.
Y'a le goût pour les papilles,
les papilles pour les chaussons.
Y'a le pied pour l'espadrille,
y'a papier pour le canson.
Y'a le jaune pour les junkies,
le blues pour Robert Johnson,
le tracteur pour qui soutille,
et massé pour Ferguson,
les mantilles pour la Castille,
élémentaire pour Cher Watson,
les poètes pour les chevilles,
les poètes pour les klaxons,
les cadenas pour les grilles,
la clé pour le paillasson,
le juge pour le gorille,
et Brassens pour la chanson.
Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons.
L'opéra pour la Bastille,
l'apéro pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles,
des filles pour les garçons.
Y'a des filles pour les filles,
et des garçons pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. L'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les garçons. Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Y'a des filles pour les filles, et des garçons pour les garçons.
Y'a le C pour la cédille.
Le Q pour le caleçon.
Le X pour les moustilles.
Et X pour le calisson.
Saint-Jacques pour les coquilles.
Compostelle pour le poisson.
Y'a le vin pour Vintimille.
Et la bœuf pour Besançon.
L'air bête pour la faucille.
Et l'air con pour Dormesson.
Le taureau pour les banderilles.
Les bandas pour la bande son.
Les fesses pour quelle tortille.
Le professeur pour les leçons.
Y'a ça redémarre pour la chenille.
Y'a ça s'arrête pour le poisson.
Le canasson pour les trilles.
Et le cheval pour l'arçon.
Les mulets pour les alpilles.
Des ânes chez Ardisson.
Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. L'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les glaçons. Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Y'a des filles pour les filles, des garçons pour les garçons.
Y'a Dalida pour les trilles.
Et Dalila pour Sanson.
Le petit salé pour les Antilles.
Le guoca pour les bassons.
L'autonomie pour les lentilles.
L'indépendance pour le cresson.
La danse pour les gambilles.
Les gambas pour la cuisson.
Y'a les montres pour les broquilles.
Et y'a Cartier pour Bresson.
La capitale pour ceux qui brillent.
Le Capitole pour Plasson.
La nation pour les pupilles.
L'état pour les francs-maçons.
Baladur pour la camomille.
La race centriste pour Soissons.
Madeleine pour les bisbilles.
La Madeleine pour la boisson.
Les serpentins pour Joyeudrille.
Et les serpents pour qui ils sont.
Y'a des garçons pour les filles.
Des filles pour les garçons.
L'opéra pour la Bastille.
L'apéro pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles.
Des filles pour les garçons.
Y'a des filles pour les filles.
Et des garçons pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles.
Des filles pour les garçons.
L'opéra pour la Bastille.
L'apéro pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles.
Des filles pour les garçons.
Y'a des filles pour les filles.
Et des garçons pour les garçons.
Que pensez-vous du mariage pour tous?
Je pense qu'il faut être tolérant. Le mariage pour tous, c'est pour tout le monde, donc pourquoi pas, je vois pas où est le sujet, où est le problème. Bon.
Moi je suis d'accord, hein, n'importe quel que ce soit, moi je suis d'accord. Hein. Bon, bien sûr, peut-être qu'après ça posera des problèmes pour les enfants quand ils seront plus grands, qu'on leur dira, vous avez deux papas, vous savez, comme les enfants sont tellement méchants entre eux, bon c'est les enfants autres qui trouveront que bon, d'avoir deux papas ou deux mamans, c'est peut-être pas logique, mais bon. Si c'est leur truc à eux, pourquoi pas? Moi, je vois pas d'inconvénient, hein. C'est logique. Hein.
Ça ne me gêne pas du tout que les gens aient le droit de se marier, dans la mesure où même les gens qui ne sont pas de même sexe ont envie de se marier, dans la mesure où ça n'enlève rien aux autres. Il existe un tas de familles dont les gens ne sont pas mariés et ça fonctionne très bien. Je ne pense pas que le mariage en soi apporte... créer une différence entre les gens et voilà, bon, moi ça ne me gêne pas que des gens qui s'aiment se marient.
Alors le mariage pour tous en tant qu'officialisation, je pense qu'on peut vivre très bien en couple sans forcément régulariser un mariage proprement dit. Le mariage a priori était fait pour des hétérosexuels. Le mot mariage était prévu pour des hétérosexuels à l'époque. Donc je pense qu'on peut très bien vivre sans officialiser le mariage.
Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Après tout, si les gens s'aiment, qu'ils soient du même sexe, ça m'est complètement égal. Cela dit, pour revenir sur le papier qui a fait le buzz sur Virginie Despentes et le mariage homosexuel, quand elle dit que les homosexuels ne peuvent pas hériter au décès de leur compagne ou compagnon, c'est faux, puisqu'avec les PACS, on peut hériter. Ce qu'on n'a pas lorsqu'il y a un deuil de cette sorte, c'est la reversion de retraite. Mais après tout, on peut s'aimer et se marier, il n'y a aucun problème.
À partir du moment où le mariage est en place, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de mariage pour tous. Après, il faudrait voir le statut du mariage. C'est peut-être lui qui serait à revoir. Ça, c'est un autre problème. Bon, par contre, après, bah oui, le mariage pour tous, oui, pourquoi pas. Je veux dire, il n'y a absolument aucune raison que ça puisse poser un problème. Et toute l'argumentation des gens qui sont contre repose sur un conservatisme, une moralité, et puis des notions voilà, complètement dépassées. Quoi. Il y a une perte totale de la réalité de la société dans laquelle on vit, de la part de ces gens-là.
Mais écoutez, dans la mesure où le mariage existe toujours, je suis tout à fait pour le fait qu'il soit pour tous. Maintenant, je ne suis pas sûre que l'institution du mariage en elle-même est encore la valeur aujourd'hui que certains veulent bien lui accorder.
Tout le monde a le droit de se marier.
Surtout que la France, ça prône l'égalité entre tous, donc du coup, c'est bien qu'ils puissent se marier. Fait. Que les gens puissent se marier librement.
Il y a plein de pays, donc pourquoi pas en France, quoi.
Ah, le mariage pour tous, pourquoi pas, oui, bien sûr, c'est tellement évident. Il était essentiel que la République soit la même, les lois républicaines soient les mêmes pour tout le monde, à savoir pour tous les citoyens, les mêmes droits. Donc, peu importe que l'on soit, je vois là où vous voulez en venir, oui, Oui au mariage pour toutes et tous.
Ouvrir le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe, votre position là-dessus ?
Mais je trouve que c'est une question qui est difficile et compliquée. A priori, au départ, on aurait envie de dire que un enfant doit être élevé par un couple hétérosexuel, c'est-à-dire un couple d'homme et une femme. Mais dans le problème, au niveau de la législation, il y a une difficulté énorme de refuser l'adoption aux homosexuels. Elle est dans le fait que de tout temps, on a accepté l'adoption aux célibataires, donc hommes-femmes. Donc là, il y a un problème. On peut être un peu hésitant d'accorder l'adoption à un couple homosexuel, ça peut se concevoir, il faudrait l'approfondir le problème, on n'a pas le temps là dans la rue, mais il y a ce problème qui est indéniable, dès l'instant, on ne peut pas avancer l'argument du fait d'avoir un couple, un homme et une femme pour élever des enfants, dès l'instant qu'on a depuis longtemps accepté l'adoption par les célibataires. Donc, revoyons le problème, discutons, mais là, c'est un argument qui est indéniable, à mon avis.
Pourquoi pas ? Parce que je pense que c'est des gens qui s'occuperont davantage des enfants, qui seront plus aimants que c'est des familles homoparentales qui font que des sévices à leurs enfants, qui arrivent même à les tuer, alors que, en principe, quand on en a vu, ils ont l'air de bien s'en occuper. D'abord, il n'y a qu'à voir ceux de plus belle la vie, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, ils s'occupent bien de leur fils, quoi. Non, mais là, moi, je ne vois pas de problème. Hein.
Je crois que c'est lié. Bon, pourquoi pas, après tout. Tout est question d'amour. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Voilà. Dans la mesure où il vaut mieux être dans un mariage, dans une famille où les gens s'aiment, même si les parents sont du même sexe, plutôt que dans une famille où les gens de sexe différent passent leur temps à se disputer.
Je suis très partagée parce que justement, je suis psychologue, journaliste, j'ai beaucoup interviewé des petits analystes, pas du tout en ce moment, mais il y a plusieurs années, et qui étaient très hésitants. Alors c'est vrai qu'il y a des études, qu'il y a eu un témoignage dans le Nouvel Obs, je crois, de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, sur des enfants élevés par des homos, il n'y avait aucun problème. Cela dit, tout le monde reconnaît qu'on n'a pas encore suffisamment d'études, que les études sont assez floues à ce sujet-là. Mais en fait, de manière générale, je suis assez pour. Parce qu'autant autant être élevé dans l'amour que dans le cassage de gueule que peut représenter certains couples hétérosexuels.
Alors l'adoption, je suis complètement pour. Et le mariage, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément pour le mariage proprement dit.
Compte tenu du nombre de monde qui finissent leur vie en orphelinat, je vois pas pourquoi on les confierait pas à ces gens-là. Et puis moi, quand on me sort comme argument qu'il faut un papa et une maman, d'abord c'est discutable, compte tenu du nombre de familles monoparentales qu'on a aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup plus d'enfants abîmés qu'avant. Mais puis il y a bien d'autres raisons d'avoir des enfants abîmés. Puis je pense qu'un gamin dans le cadre d'une famille homosexuelle qui s'en occuperait correctement, ça vaudra toujours mieux qu'un gamin dans une famille où le père picole et lui cogne dessus, quoi. C'est pas plus mal. Et là, ça, c'est parmi beaucoup en question, quoi.
Mariage ou pas mariage, je suis tout à fait pour, évidemment, dans la mesure où je pense que des couples de même sexe peuvent tout à fait élever des enfants et que c'est l'amour qui compte.
Je pense que c'est bien, mais pour les enfants concernés, le regard des autres, ça doit être difficile quand même. Même si, c'est de plus en plus accepté.
Ils ont tous le droit d'avoir des enfants, d'adopter au même titre. Si l'enfant est heureux, c'est le plus important.
Oui, voilà.
Oui, vas-y, c'est bon. C'est ça. Oui, voilà, si l'enfant est heureux, c'est le plus important.
Alors déjà, mariage pour tous, ça, c'est fait. L'adoption, vu qu'on adopte bien les chiens, on pourrait bien adopter des enfants. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire ?
Très bien.
Les orphelinats sont suffisamment remplis d'enfants malheureux pour que, on puisse offrir une situation digne, acceptable, pleine de tendresse et de bonté à tous ceux qui en attendent pas plus de l'humanité.
Selon vous, les homosexuels sont-ils acceptés en tant que tels dans notre société ?
Ça, c'est difficile, parce que vous me demandez de répondre à la place de millions d'individus. Alors, je ne vois pas comment je peux répondre, accepter ou pas, je n'en sais rien. J'ai moi-même une éducation, j'ai reçu une éducation, et je ne suis pas le seul, je suppose, où il y avait un certain mépris, une certaine résistance à ce phénomène. Alors, est-ce qu'ils sont acceptés ou pas ? Il y a un progrès indéniable depuis une vingtaine d'années sur l'acceptation des homosexuels. Mais cette question est assez générale. Est-ce qu'au fort intérieur des individus, est-ce que moi, si je me creuse au fort intérieur de moi-même, de toute façon, il faut être tolérant envers les individus. Donc une personne homosexuelle ou pas, moi je la considère comme une personne humaine, en priorité. Je ne vais pas lui demander sa façon de gérer sa sexualité.
Ah ben, pas toujours, non, pas toujours, puisque bon, maintenant ils arrivent à se montrer. Mais avant, ils se cachaient parce que c'était une honte, Non, moi je vois pas, il faut les accepter comme tout le monde, hein, comme on accepte les étrangers, les ils ont leurs droits dans la vie de tous les jours. Voilà, dans la mesure où, ils font pas des trucs... je sais pas, moi, comme se balader à poil ou des trucs comme ça, je ne vois aucun inconvénient qu'on les accepte mal.
J'aimerais vous dire oui, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Personnellement, c'est comme le racisme. Si vous vivez au quotidien dans une cité où vous avez l'impression d'être à l'étranger, la réaction n'est pas la même que si vous vivez dans une petite ville de province où le problème ne se pose pas. C'est pareil, c'est pas facile de dire ce qu'on en pense si on n'est pas confronté ou au quotidien au problème entre guillemets, parce que ce n'est pas un problème. Personnellement, en théorie, j'ai pas de, ça ne me gêne pas du tout. Mais je comprends que ça puisse poser des problèmes à certaines personnes, que ce soit d'un point de vue moral, religieux ou autre. Mais moi, personnellement, je me semble que sur cette question, il doit y avoir des progrès à faire.
Je pense que non, actuellement, on n'en est pas encore à ça, même si on fait de gros progrès pour l'acceptation, mais ce n'est pas encore acquis.
Oui, maintenant, oui. Dans mon enfance, pas du tout, mais maintenant, les choses ont terriblement évolué, oui. En revanche, je vais revenir sur l'histoire de... Je ne suis pas pour l'insémination, pour les homosexuels, je trouve ça... Là, ça touche un autre domaine, voilà. Mais je trouve que non, au contraire. Il y a même, moi qui suis à moitié parisienne, à moitié villefranchoise, il y a un lobby gay à Paris extrêmement puissant, avec le maire de Paris, avec son attaché à la culture Christophe Girard. Il y a énormément de postes qui sont ravis, entre guillemets, aux hétérosexuels pour les homosexuels, il faut le savoir quand même. Alors ça se passe peut-être pas à Villefranche, mais à Paris, oui.
Ouf, alors ça c'est un gros problème. Je pense que on en est un peu à cette période où il y a quand même eu des avancées, mais dans l'esprit général ça reste j'ai rien contre mais pas chez moi quand même un petit peu quoi. Il y a quand même un petit peu beaucoup ça, c'est-à-dire que ça me dérange pas, mais pas mes enfants, pas les gens que je connais. Il y a quand même un peu plus de tolérance qu'avant, on assiste moins à des cassages de gueule, ce qui se pratiquait couramment il y a encore une dizaine d'années. Le discours est un peu plus accepté, mais toujours pareil, hein, de la part de milieux très très conservateurs et très très moralistes, voire très très religieux, un rejet qui est toujours présent, il y a toujours ces notions de confusion qui nuisent énormément entre pédérastes et pédophiles, qui fait que c'est aussi pour ça que ces histoires d'adoption posent énormément de problèmes à ces gens-là. Non, voilà, quoi. Bon, on a évolué, la société a évolué. Je pense que dans l'ensemble, c'est toléré. Disons qu'on en est dans une phase où la chose est tolérée. Maintenant, savoir si vraiment c'est accepté, c'est encore autre chose. S'il y a une pleine reconnaissance, je pense que c'est pas encore le cas. C'est pour ça qu'à la limite, bon, si, même si moi je remettrais plutôt en question le principe du mariage en général, qu'ils puissent accéder, que les homosexuels puissent accéder au mariage, ça permettra quand même une meilleure reconnaissance et un peu plus d'acceptation sans doute, quoi. On nous avait promis des catastrophes à la signature du Pax, on n'a pas vu la société s'effondrer. Je pense pas que ça fasse beaucoup plus de dégâts cette fois, il n'y a pas de raison. Non, c'est une évolution qui est indispensable. On est dans un pays qui se réclame de l'égalité. Bon, ben voilà, ça en fait partie aussi. Hein. C'est une base même, hein, une question de respect.
Alors ça, c'est une très vaste question, accepter en tant que tel. Ça dépend où, par qui, comment, à quel point de vue. Et parfois oui, parfois non. Malheureusement, il y a encore beaucoup, et forcément beaucoup trop d'homophobie. Ça, c'est évident à mon sens. Maintenant, la société a quand même évolué. Et c'est vrai que je pense que les personnes homosexuelles sont quand même un peu mieux acceptées qu'avant. Mais il y a encore du boulot, c'est comme avec les femmes.
Non, pas du tout. Enfin, à mon avis, dans nos campagnes, non. Mais après, en ville, oui. Puis les personnes plus âgées, voilà. Non, voilà. Elles les acceptent pas. C'est encore mal vu par certaines personnes.
Même les jeunes encore n'arrivent pas à accepter.
Enfin, ça dépend.
Il y en a même au lycée, je suis sûre, ils sont homosexuels, mais ils n'osent pas l'avouer par rapport au regard des autres, des moqueries.
Ils ont peur,
oui.
Des blagues, de l'homophobie, quoi, ils ont peur. Donc ils n'osent pas. Surtout ici.
Alors ça, c'est un grand progrès qui se fait petit à petit tous les jours, ça se constate. On sort de cette vue de l'homosexualité, alors on va dire mâle, qui était déprécié, etc. et tout. On sort du point de vue où un homosexuel était considéré comme une tapette, une lopette, une merdouille, etc. et tout, tandis que l'homosexualité féminine était très appréciée, très prisée par l'agent masculin et couillu. Alors maintenant, voilà, c'est tout le monde qui aime tout le monde. C'est ça le changement. C'est maintenant. Voyez ?
Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.
stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
Vous venez de nous rejoindre. C'est Urgence, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, émission sur le mariage pour tous. Jean-Michel Punière et Barthélémy Alata de l'association Contact Midi-Pyrénées étaient à Villefranche-de-Rouergue très récemment pour un ciné-débat sur ce thème. Le thème était « Quand l'homosexualité bouscule la famille, à tous les coups, on gagne à en parler ». Nous avons profité de cette occasion pour connaître leur point de vue sur le débat actuel. Alors d'abord, quelques mots sur l'association Contact. C'est un réseau d'associations au niveau de la plupart des régions de France, dont l'objectif est d'aider les familles à accepter l'homosexualité d'un proche. Une association qui intervient en milieu scolaire, est agréée par l'Éducation nationale. Une association qui forme des professionnels, l'objectif étant de favoriser le dialogue entre les parents, les gays, lesbiennes et bi, leurs familles et leurs amis. Cette association propose une ligne d'écoute et des permanences d'accueil, des réunions ouvertes, des groupes de parole et des entretiens individuels avec des psychologues. Voilà. Donc, nous avons commencé par demander à Jean-Michel Punière quelles étaient, à son avis, les raisons qui font que ce débat, qui devrait être un débat dépassionné, devient presque violent à l'heure actuelle.
Mais ça s'inscrit déjà dans un contexte où il y a de grosses difficultés liées à l'homophobie dans notre société. C'est-à-dire c'est une des premières causes de suicide des jeunes aujourd'hui, c'est cette homophobie et qui pose problème pour les jeunes qui se découvrent homosexuels pour s'accepter. Alors le suicide, c'est une des plus graves conséquences. Hein. On estime quand même que ça fait environ 200 jeunes en France chaque année qui meurent par suicide pour cette raison-là, c'est quand même énorme. Il y a aussi beaucoup d'agressions déjà, de personnes qui sont homosexuelles ou qu'on identifie comme telles. Souvent ce sont des gens qui ne portent pas plainte parce qu'il y a une mauvaise estime de soi, qui n'osent pas finalement faire cette démarche de porter plainte, ou qu'ils ont peur qu'en faisant cette démarche, on sache qu'ils sont homosexuels. Donc ce sont des personnes qui sont vulnérables aussi par rapport aux agresseurs de ce point de vue. Alors que ce soit les agressions, le suicide, les dépressions, tout un tas de problèmes qui se posent dans notre société à cause des difficultés d'acceptation. Le problème des débats actuels, c'est que la façon dont les opposants au mariage pour tous posent les choses de façon quand même très véhémente, contribue à l'homophobie dans la société finalement, hein, parce que c'est tout un déballage d'arguments comme quoi les homosexuels ne seraient pas dignes de s'occuper d'enfants, seraient des gens extrêmement différents. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'acceptation et ça ne peut que renforcer tous ces problèmes dont on a parlé, au lieu d'au contraire améliorer la situation. Et c'est toujours étonnant comme quoi les opposants au mariage pour tous parlent des enfants et disent voilà, nous sommes là pour prendre soin de l'enfant, sauvegarder, c'est un principe de précaution, tout ça, il faut protéger les enfants. Et ils n'ont beaucoup moins de considération quand il s'agit de protéger les enfants, justement, qui prennent conscience, qui n'ont pas choisi et qui prennent conscience qu'ils ont une attirance homosexuelle et qui le vivent très mal en raison de tous ces préjugés et par exemple se suicident. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens qui prétendent vouloir protéger les enfants, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Est-ce qu'ils rejoignent des options comme la nôtre pour protéger les enfants? Je ne crois pas. Donc c'est plutôt un argument de façade, cette question de protéger les enfants, pour faire passer derrière une idéologie, une opposition au mariage homosexuel, parce que derrière il y a des préjugés sur l'homosexualité.
Est-ce que vous ne pensez pas que parfois dans le débat on confond homosexualité et pédophilie, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée sous-jacente quand on parle des enfants?
Probablement, c'est un vieux stéréotype, cette question de l'homosexualité et la pédophilie. Alors bien sûr, on sait bien que la pédophilie, une personne pédophile peut être hétéro ou homosexuelle, la plupart du temps hétérosexuelle. Ça n'a rien à voir, la pédophilie et l'homosexualité, mais c'est vrai que ça fait partie de de toute l'imagerie homophobe que de faire cet amalgame. Et donc, ça fait partie des peurs qui ne sont pas dites, mais qui entrent en jeu, à mon avis, dans le débat.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup trop, enfin déjà, même un, c'est trop, il y a beaucoup trop d'inceste dans le contexte familial. Donc, en termes de protection de l'enfance, il faut aussi repenser la famille, comment la famille, elle évolue, comment les parents, peut-être, ils sont formés à devenir parents, comment il y a des espaces de dialogue, comment on ne permet pas que des enfants puissent, sous prétexte qu'ils sont dans une famille, être à un moment donné confrontés à leurs géniteurs lorsque ceux-ci sont malsains. Voilà, donc je pense qu'en termes de protection des enfants, il ne faut pas se tromper de cible, il y a un progrès de société à faire sur l'ensemble de la conception de la famille et pas forcément auprès de personnes qui ont un projet d'adoption, donc un projet mûri, un projet réfléchi et qui se sont armés de beaucoup de bonne volonté, que ce soit d'ailleurs des adoptants hétéros ou homosexuels.
Alors par rapport, nous avions posé la question lors de notre micro-trottoir sur... la question était à peu près la suivante. Est-ce que vous pensez que les homosexuels sont aujourd'hui considérés comme les autres en tant que tels, sont acceptés en tant que tels dans notre société? Alors est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire?
Il y a beaucoup à faire, car on pourrait croire que les homosexuels sont mieux acceptés parce que la société dans l'ensemble porte un regard moins négatif sur l'homosexualité, tant que c'est quelque chose qu'on perçoit comme lointain, comme un phénomène lointain. C'est-à-dire, souvent, on entend dire des gens, j'ai rien contre les homos, je suis pas homophobe, mais il faut pas que j'en voie dans la rue, je veux pas en avoir dans ma famille, si mon propre fils ou ma propre fille me disait ça, je le mettrais à la porte. Enfin, bon, on voit bien que il n'y a pas une acceptation. C'est un vernis de façade, comme ça, c'est moins politiquement correct, c'est moins bien vu d'être homophobe aujourd'hui en France que ça ne l'était il y a 30 ans. Mais en fait, les choses n'ont pas beaucoup changé au cas par cas. Quand quelqu'un découvre son homosexualité ou celle d'un proche, c'est toujours une grosse difficulté. Parce qu'en fait, tout est fait dans notre société comme si tout le monde était hétérosexuel. Donc, quand on s'adresse à un adolescent ou une adolescente, si c'est un garçon, on va lui dire « Est-ce que tu as une petite copine ?» Si c'est une fille, « Est-ce que tu as un petit copain ?» On fait comme si tout le monde était hétérosexuel. Alors que les statistiques montrent bien que c'est loin d'être le cas et on devrait prendre cela en compte. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, on laisse banaliser des insultes homophobes, notamment auprès des groupes de jeunes, dans le milieu sportif, même dans les établissements scolaires, malheureusement, sont répandues les insultes. On traverse une cour de récréation, on va entendre plusieurs fois PD, tapette, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont banalisées, qui ne sont pas du tout anodines. Et donc, la société reste... Enfin, il y a un travail énorme à faire pour que les représentations changent profondément sur l'homosexualité et qu'on arrête de percevoir l'homosexualité comme quelque chose, une déviance, quelque chose de marginal, mais que ce soit une forme de sexualité comme une autre, comme l'hétérosexualité.
Je crois qu'on a beaucoup de chemin à faire dans notre société. Je crois que dans le monde également, il y a beaucoup de chemin à faire parce qu'il y a encore des pays où l'on est condamné à mort parce qu'on est homosexuel ou on est condamné à la prison ou autre. Et effectivement, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que l'homosexualité était considérée comme une déviance, comme une perversion et comme une maladie mentale. Alors depuis quand l'homosexualité n'est-elle plus classifiée maladie mentale par l'OMS?
C'est depuis les débuts des années 90, vers 1992 à peu près, que ce n'est plus considéré comme une maladie mentale par l'OMS. Voilà, donc c'est vrai que c'est récent à l'échelle de l'histoire. Ce n'est pas du jour au lendemain, quand l'OMS a arrêté de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Il y a des gens, je ne sais pas moi, qui sont des médecins qui enseignent aujourd'hui encore en université en fac de médecine ou autre, qui continuent finalement, non pas à dire l'homosexualité c'est une maladie mentale, mais à faire des sous-entendus, des choses qui laissent penser que c'est quelque chose de problématique.
Je rajouterais que, à titre personnel, donc je suis homosexuel et je ne souhaite pas me marier. Si je précise cela, c'est pas pour déballer ma vie intime, c'est parce qu'on entend dire parfois que des homosexuels ne veulent pas se marier, donc que tous les homosexuels sont pas en faveur du mariage. Mais en réalité, c'est se tromper de question, car ce n'est pas une question des homosexuels, c'est une question de société qui concerne est-ce que tout le monde veut-on une société égalitaire ou une société discriminante ? Et je revendique mon droit à avoir le même choix de me marier ou de ne pas me marier. Tout comme le sexisme n'est pas l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'un combat entre hommes et femmes pour arriver vers une égalité. Même si, effectivement, l'histoire du contre le sexisme est passée par un combat des femmes, je ne voulais pas nier ça. Je vais peut-être reprendre cette phrase. Tout comme le sexisme n'est pas seulement la préoccupation des femmes, dans une société qui se veut progressiste et égalitaire, c'est hommes et femmes qui doivent cheminer ensemble vers une société plus égalitaire.
Alors aujourd'hui, parmi les arguments de ceux qui sont opposés au mariage homosexuel, ou plus précisément de ceux qui font mine d'être pour, mais qui en fait ne sont pas très pour, un argument est développé dans une période de chômage aussi important, une période de crise économique. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire que de traiter un problème sociétal, que de traiter le problème du mariage pour tous? Que pensez-vous de cet argument?
Déjà, traiter la question du mariage pour tous n'empêche pas de traiter d'autres problèmes en même temps. Les choses sont aussi des fois plus liées qu'on peut imaginer. Cette question du mariage pour tous, c'est pas nouveau hein, qu'elle est abordée. Ça fait des années que la question se pose. Il y avait eu le mariage de Bègle qui avait été organisé là une période, et c'est maintenant assez vieux, et on s'avait soulevé déjà beaucoup à l'époque de réactions. Voilà, donc il y a une attente pour certaines personnes qui souhaiteraient se marier, et puis pour certaines personnes qui souhaitent qu'il y ait plus de discrimination au niveau de la loi, qui est bien vieille et donc auquel il s'agit de répondre déjà. Donc ça fait longtemps que ces gens attendent. Et puis, ce que je trouve surprenant dans cet argument, c'est que ce sont des gens qui sont contre et qui disent, voilà, en gros, c'est pas très important, il y a mieux à faire. Et c'est étonnant qu'ils disent ça, quand on voit tout ce que ça soulève comme réaction. Si c'était si peu important, si insignifiant pour la société, il n'y aurait pas autant de gens qui réagissent. C'est bien parce que c'est quand même fondamental qu'on touche aux libertés et un projet de société important que ça soulève autant de réactions. Donc c'est quelque chose d'important. Ça n'enlève rien à ce qui peut être fait, bien sûr, sur les aspects économiques en même temps.
Est-ce qu'il y a d'autres arguments qui vous hérissent dans ce débat?
Les arguments qui me hérissent dans ce débat, c'est par exemple la mise en avant de l'intérêt des enfants. Donc la protection des enfants, oui, il y a des progrès à faire dans la société. Il y a des progrès à faire par rapport à toute la maltraitance. Donc aujourd'hui, effectivement, des services sociaux, il y a des dispositifs, mais on voit bien qu'on n'en vient pas à bout, qu'il y a encore des situations qui ne sont pas dénoncées. Par exemple, le cadre de la famille n'est pas une solution en soi qui suffit à protéger les enfants. S'il y a des familles où les enfants sont bien traités, il y a des familles où les enfants sont maltraités. Donc on voit bien que dans les deux cas, il y a une famille. Donc on ne peut pas se contenter d'arguments aussi simplistes que de dire que la famille protège les enfants. La réalité est beaucoup plus complexe. C'est des questions de choix de société. Qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment venir en aide aux enfants, pour que l'éducation soit assurée? Est-ce que les parents reçoivent des formations? Est-ce que on apprend à être parent? Est-ce que on parle de ces sujets? Est-ce qu'ils sont tabous? Est-ce que c'est chacun ses choix dans sa famille? Le fait d'ouvrir la famille aux personnes homosexuelles ne va ni améliorer ni empirer le traitement des enfants. En fait, ce sont deux questions totalement séparées. Par contre, le fait d'ouvrir le mariage et la citoyenneté finalement complète aux personnes homosexuelles va améliorer la société dans le sens où chacune pourra y trouver une place avec plus d'égalité. Et même par rapport aux personnes qui parlent des problèmes économiques qui sont plus importants, pour de toute façon qu'une société ait une économie qui fonctionne bien, que les gens travaillent avec plaisir, il faut qu'ils se sentent bien dans la cité. Pour que les gens se sentent bien dans la cité, il faut qu'ils soient accueillis. À partir du moment où on maintient des lois de discrimination, des personnes ne se sentent pas bien accueillies, et l'économie, de toute façon, ne peut pas fonctionner quand on rejette les uns ou les autres.
Alors, certains disent, oui, il faut donner les mêmes droits aux couples homosexuels, leur donner des garanties, sécuriser leur parcours de vie, notamment par des droits sur les successions, comme pour tout le monde, par rapport notamment au droit à la pension de réversion, etc. Donc, il faudrait faire une espèce d'union qui aurait les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que le mariage, qui sera un mariage sans l'être, mais qui s'appellerait pas mariage. Est-ce qu'il n'y a pas une dose d'hypocrisie dans cette proposition ?
Je sais pas, je vais pas juger ce qu'il y a derrière quand les personnes la formulent. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour nous, c'est pas satisfaisant dans le sens où le fait de dire, ben voilà, hein, ça serait la même chose que le mariage, mais on l'appellerait différemment. Hein, et ben qu'est-ce que c'est que de faire quelque chose de différent pour une catégorie de personnes, c'est faire une discrimination. Et donc, à partir de là, c'est pas du tout, ça enlève toute la portée symbolique qui est importante de cette mesure, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination. Alors, soit on considère que le mariage républicain, eh bien, ne doit pas s'appeler mariage pour X raisons, et dans ce cas-là, il ne s'appelle mariage pour personne, hein, et ni pour les homos, ni pour les hétéros. Soit on considère qu'il y a un mariage républicain qui est proposé dans société, hein, c'est ce qui est actuellement, et dans ce cas-là, il doit s'appeler mariage pour tout le monde. Voilà, c'est tout simplement le principe de base de l'égalité.
Est-ce que vous imaginez une mobilisation très forte contre le mariage pour tous, ou est-ce que vous pensez que ce qu'on a vu samedi dernier a atteint son maximum en termes de mobilisation ?
Je ne sais pas. Peut-être que, disons que là, comme il y a encore du temps avant que les lois soient votées, il se peut qu'il y ait une mobilisation qui puisse même encore grossir. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, les personnes pour qui c'est aussi important de militer contre le mariage pour tous sont quand même un nombre limité quand même dans la population. Alors peut-être que ça a atteint son paroxysme. Voilà, difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que on voit que certains, voilà, sont très très motivés. On se demande quand même qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent autant concernés par quelque chose qui paradoxalement présente comme une loi qui concernerait que quelques-uns.
Oui, alors si je vous demandais pour résumer votre position et les arguments essentiels en faveur du mariage pour tous, qu'est-ce que vous répondriez?
Mais pour résumer, hein, c'est vraiment la question que chacun et chacune ait les mêmes droits. Et les mêmes droits, ça veut dire le droit de se marier, mais aussi le droit de ne pas se marier, le droit finalement de choisir. Et les mêmes droits, et donc qu'il n'y ait aucune discrimination d'un point de vue de la loi. Et qu'il y ait finalement, on voit que toutes ces résistances qui sont soulevées par ce débat, tous ces arguments des gens qui sont opposés, montre qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer, beaucoup d'idées reçues, de préjugés sur l'homosexualité, et qu'on ne considère pas tout à fait les homosexuels comme tout un chacun dans notre société. Donc ça montre que même si la loi donc passera probablement, qu'il faudra aussi que le débat puisse continuer, non pas sur le fait de dire je suis pour ou je suis contre le mariage pour tous, mais sur quelle est la place aujourd'hui des homosexuels dans la société et donc de la lutte et de la prévention de l'homophobie.
Oui, moi j'aurais posé une question un peu plus politique peut-être. C'est que face à l'opposition justement au mariage pour tous, elle vient des religieux, et beaucoup. Et on a vu, d'ailleurs j'ai vu un texte là signé par des évêques, par des rabbins et par des imams. Et est-ce que tout d'un coup les religieux ne veulent pas se servir de ça pour tout d'un coup remettre en cause un peu notre république laïque? Est-ce qu'ils ne veulent pas se réapproprier le débat politique?
Concernant les attitudes des congrégations religieuses, il ne faut pas oublier non plus qu'ils représentent des diversités de croyants avec des convictions très différentes sur ce thème de l'égalité ou de le dogme. Donc on a effectivement certaines personnes médiatiques ou hiérarchiquement haut placées qui ont des discours qui ne reflètent pas de toute façon l'ensemble des croyants d'une même religion. Par conséquent, j'examinerai avec prudence, c'est pas ceux qui parlent le plus fort qui ont forcément... représentent forcément tous leurs fidèles, et je pense qu'il serait intéressant de donner la parole effectivement à la diversité qui s'exerce en leur sein.
C'était Jean-Michel Punière et Barthélémy Alata de l'association Contact Midi-Pyrénées. En espérant que cet entretien vous aura aidé à porter notre regard sur cette problématique d'actualité. On poursuit cette émission en musique avant de retrouver le billet d'humeur de Dominique Ladé.
Got one eye on the future.
Bonjour. Ce dimanche 25 novembre est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui encore, en France et en moyenne, 250 viols sont commis tous les jours sur des femmes. Et plus d'un million de femmes sont victimes de violences sexuelles chaque année. Sur ces chiffres, environ la moitié de ces femmes sont des enfants. Ces chiffres sont éloquents, me semble-t-il, sur le travail de conscientisation qui nous reste tous à faire. Égrener ces chiffres fait froid dans le dos, car cela fait penser à un décompte d'objets ou de faits extérieurs et froids. Non. Ces chiffres sont la triste réalité du quotidien d'un grand nombre de personnes, d'êtres humains, qui vivent avec nous, près de nous. Sans le savoir, ou en le sachant d'ailleurs, vous en connaissez certaines. Rarement elles le disent, elles en parlent. Cela reste souvent pour elles une tâche qui les salit. Une honte qu'elles ont du mal à exprimer. Le discours le plus fréquent dans notre société, et même chez certains professionnels, reste « Elle l'a cherché par son attitude » ou le doute. « Êtes-vous sûr ? Ce n'est pas possible. Je connais son mari, son ami, son agresseur en fait. » Dans mon expérience professionnelle, dans mes différents engagements, mais aussi dans mes rencontres personnelles, j'ai côtoyé, de près et parfois accompagné, ces femmes qui sont devenues victimes souvent de personnes proches, mari ou ex, compagnon ou ex, ami. Je peux certifier que cela ne se voit pas toujours, que jamais je ne peux l'admettre comme une banalité, et que pourtant tout le monde tente de banaliser, parfois même la victime. C'est rien, il n'est pas tout le temps comme ça. C'est pour moi clairement des actes de grande lâcheté et de perversion, car ils sont souvent le résultat d'un lent travail de dévalorisation, de sape de la personnalité de la victime. Je ne peux à aucun moment accepter toutes ces violences, même si parfois elles sont la réponse à ce que le bourreau a décodé comme une agression. Notre société, trop souvent, pose le voile du secret sur ces actes odieux. Et trop souvent, la victime rentre dans cette réaction aussi. Ce qui me semble plus grave, c'est que des professionnels censés accueillir et accompagner ces femmes ont, parfois dans un premier temps, mais ont cependant ce genre de réaction. Le plus souvent, cela bloque définitivement, entre guillemets bien sûr, la parole de la personne victime. La non-reconnaissance est une violence supplémentaire qui leur est faite. Il reste là encore beaucoup de marge de progression, de travail d'information et de formation à faire pour que notre société et ses acteurs acceptent enfin de reconnaître et de débusquer même ces actes qui ne sont à aucun moment acceptables. Les actes de violence en eux-mêmes sont inacceptables pour la société et pour la victime, évidemment. Mais ils ne le sont pas plus pour l'agresseur, qui rentre lui aussi dans un cycle de rapports complètement pervertis. Ces rapports sont vraiment un cycle infernal, où la violence devient même un mode de relation normalisé dans certains couples ou certaines familles. Chacun est alors entraîné dans ces rapports avec beaucoup de difficultés pour, un jour, espérer s'en sortir. J'ai eu à accompagner aussi des auteurs d'agressions sur des femmes ou des enfants. J'ai pu toucher du doigt la complexité des rapports entre les êtres humains et les engrenages dans lesquels nous pouvons tous, un jour ou l'autre, nous perdre. Les jugements que nous portons sur les autres sont souvent faciles et définitifs. Dans la vraie vie, des êtres humains, les choses sont plus complexes. J'ai l'habitude de dire à ces agresseurs que ce qu'ils ont fait est une saloperie, une ignominie. Je n'aurais jamais dit qu'ils étaient, eux, des salauds. Pour autant, jamais nous ne devons accepter, même du bout des lèvres, des actes de violence, encore moins sur des femmes ou des enfants. Et surtout pas la violence ordinaire et banale. C'est pas grave, paraît-il. Par exemple, en parole, en geste, mais qui petit à petit, insidieusement, amène l'acceptation de la violence tout court, comme un acte normal dans notre société. Ce n'est tout simplement pas pensable ou viable pour toute personne sensée. Là aussi, il s'agit de droits de l'homme, au sens générique de l'humain ou de l'humanité. Toute forme de violence faite à un être humain est une atteinte à son humanité. Les combats dans notre société moderne, dite évoluée, sont loin d'être finis pour que petit à petit nous arrivions à vivre en bonne intelligence entre êtres humains, mais aussi avec le reste de notre planète.
Merci Dominique. Nous avons pu apprécier une nouvelle fois la pertinence de ton regard sur l'actualité. C'était urgence, urgence pour les droits, urgence pour les libertés, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, émission diffusée le dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Une émission que vous pourrez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous en décembre. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés, la solidarité. Refusons l'exclusion et les discriminations.
Il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos,
il y a des rodéos.
Et la France d'en bas, et la France d'en haut, celle dit des bourgeois, celle dit des prolos. Les petites filles à papa et les cadres sociaux. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y'a les sans-papiers, les sans sous les sens, sur les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les oufs, les ouaves, les toqués-toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler de tout ça. Ça se passe ici bas où il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démagogie.
gravité, il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la win qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier, y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qu'on y en a fait en prison. Plein d'escrocs cravatés qui nous prennent pour des cons. Je me suis perdu dans la foule, t'es réfugié dans le son. Ma chenouque, ma cam, ma plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà, où me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler, tout ça, quand tout ça se passe ici-bas.